Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le grand plaisir de retrouver et d'accueillir le professeur Christian Walter. Bonjour Christian.
Bonjour Jean-Louis.
Bien, j'espère que cette période estivale s'est bien passée. En tout cas, elle a été productive puisque vous avez dirigé un nouvel ouvrage qui a comme titre les nouvelles normes financières s'organiser face à la crise et qui est sorti donc chez Springer, un ouvrage de 250 pages pour 25 euros. Donc nous allons revenir sur le contenu de cet ouvrage, mais avant je voudrais rappeler à nos auditeurs quelques éléments de votre parcours et je voudrais commencer par vous féliciter car vous avez été récemment nommé directeur de la chaire éthique et finances à la faculté des sciences sociales et économiques de l'Institut catholique de Paris. Donc bravo.
Merci.
Ceci est tout à fait logique car effectivement vous affirmez de plus en plus, notamment avec votre collègue Briand. On dit Briand ou Brianne ?
Briand.
Briand.
Et d'autres.
Il l'est d'ailleurs.
Et d'autres aussi. D'autres, voilà, d'autres.
Et d'autres, comme un grand spécialiste des normes financières et des mathématiques financières. Alors, je rappelle le contexte de la parution de ce livre. L'ampleur des dysfonctionnements révélés par la crise financière de 2008 a placé l'ensemble des règles comptables et prudentielles de la finance sur le banc des accusés. Pourtant, ces normes qui règlent la vie du monde financier ont subi une profonde refonte depuis les années 1990. Et donc, à partir d'un diagnostic, vous faites ensuite, tout au long de cet ouvrage, des propositions sur lesquelles nous allons revenir. Mais je n'ai pas perdu le fil de ma présentation et je rappelle donc que vous êtes actuaire agrégé de l'Institut des actuaires. Vous êtes un auteur, un chercheur et, je le disais tout à l'heure, éminent spécialiste de l'analyse des risques financiers. Vous avez été plusieurs fois honoré par le prix Turgot et encore tout récemment, lors de la dernière édition, la 23e, à Bercy, pour votre ouvrage « Le virus B » que vous avez publié au Seuil, c'est ça, avec le journaliste de Bracontal. Voilà, encore donc bravo pour tous ces travaux. Alors, on en vient donc à cet ouvrage. Donc, à partir d'une approche pluridisciplinaire, philosophie, sciences politiques, sociologie, économie, histoire de la pensée économique. Donc, chacun de vos co-auteurs représente cette sensibilité. Voilà. Vous proposez d'assumer la réalité de l'incertitude dans les pratiques professionnelles et de reconstruire des règles comptables et prudentielles qui intègrent une vision plus réaliste des aléas financiers. Voilà, en résumé, le chapeau.
Voilà, voilà.
Est-ce que j'ai à peu près fidèle à votre présentation. Alors, le cœur de votre sujet, c'est analyser le cadre conceptuel que sous-tend le dispositif actuel des normes financières.
Voilà, en fait, ce qui nous a paru important, c'était de répondre à la question posée souvent relative au cadre conceptuel sur lequel on pouvait construire une régulation financière. Et de fait, dans les débats internationaux, souvent il apparaît que la position française, entre autres, avait du mal à s'imposer face à la position anglo-saxonne parce qu'il n'y avait pas ou il manquait un cadre conceptuel pour étayer ou sous-tendre les propositions que voulaient faire ceux qui ne suivaient pas forcément, on va dire, la manière unique de penser de l'école anglo-saxonne du risque. Donc pour cela, plutôt que de partir de considérations technico-techniques, on s'est dit que ça valait la peine d'aborder directement cette question du cadre conceptuel en réunissant une approche pluridisciplinaire qui regroupe, voilà, comme vous l'avez bien dit, Jean-Louis, différents spécialistes, chacun pour leur domaine. Donc il y a un historien de l'économie, Pierre-Charles Pradier, un économiste, Jacques Sapir, il y a un mathématicien de la finance, Olivier Le Courtois, un politologue, Grégory Vanel, un philosophe, Emmanuel Picavé, un historien des sciences, Éric Briand, pour pouvoir proposer une approche renouvelée de la façon dont des normes construisent un système de régulation et les enjeux liés au système de régulation, d'une part, et de l'autre, après le virus B, dont on a parlé.
Justement, donc c'est un petit peu le prolongement.
On demandait, mais alors, une fois qu'on a posé le diagnostic, il y a un virus bourronien, qu'est-ce qu'on fait après ? Autrement dit, c'est quoi la suite ? Voilà. Et la suite du virus B, c'est de proposer une manière, on va dire, décontaminée, de reconstruire des normes à partir de principes fondamentaux qui n'ont pas été imprégnés par la manière de penser l'incertitude qui a été appelée virus brownien dans mon précédent ouvrage.
D'accord, que vous avez fort remarquablement d'ailleurs développé. Alors, qu'est-ce qui a donc dysfonctionné précédemment, les grandes lignes? Donc, c'est ce fameux virus B qui a entraîné ces dysfonctionnements, globalement.
Voilà, moi je pense qu'en prenant la question très en amont, on peut voir ça comme une manière fausse ou erronée de penser l'incertitude, et donc le risque. C'est-à-dire, au fond, comment est-ce qu'on va appréhender dans l'économie, dans la vie quotidienne ou concrète de ceux qui sont dans l'économie et la finance, l'incertitude. Et ce qui me semble important à ce niveau de généralité, c'est d'appuyer sur le fait que, bien souvent, et pour des raisons précises, le cadre dans lequel on pense l'incertitude n'a pas été construit comme il le fallait. D'où les problèmes qui s'en suivent, qui concernent après la mesure des risques, le contrôle des risques, le calcul, etc. des fonds propres.
Alors vous faites une distinction, bien entendu, entre l'incertitude et l'erreur.
Voilà, alors une, voilà,
C'est pas une des premières choses qu'il faut rappeler pour nos auditeurs.
Voilà, effectivement, c'est un point très important, Jean-Louis, qu'il faut mettre en évidence, c'est que très souvent, on réduit l'incertitude sur les choses qui vont se passer demain à une erreur de mesure. Et on se dit au fond, si c'est une erreur, alors en mesurant mieux, on réduira ce qui est incertain. Et donc faisant ça, on est en train de se dire que finalement, l'erreur pourra être réduite par un accroissement, on va dire, d'informations sur le phénomène. Et donc plus on augmentera l'information sur le phénomène sur lequel on veut réduire l'incertitude, et mieux, en fait, on pourra le contrôler. Et donc faisant ça, la conséquence directe, c'est qu'on va être tenté d'augmenter de plus en plus la masse de documents informationnels dans l'espoir d'arriver à réduire...
À la portion la plus petite possible
de l'incertitude.
Voilà.
Et en fait, l'incertitude n'est pas réductible à une erreur parce qu'il reste toujours un élément d'incertitude. Et lorsqu'on réduit à une erreur cette notion d'incertitude, on se retrouve dans un schéma classique que connaît bien l'histoire des sciences, qui est la pensée du statisticien belge Adolphe Quetelet, qui avait le premier en 1835, puis 60, dans sa théorie de l'homme moyen, considérait qu'on pouvait réduire l'incertitude ou l'incertain à une erreur de mesure. Et je pense que cette conception, en fait, quetelésienne, influence est à l'origine de, on va dire, la manière aujourd'hui de penser que la transparence pourrait permettre de résoudre tous les problèmes liés au risque.
Alors justement, parlons de transparence, on en parle beaucoup. Que faire sur ce sujet pour améliorer le système financier? On fait toujours, enfin très souvent, le parallèle entre transparence et maîtrise des risques.
Voilà, parce qu'effectivement, lorsque l'incertitude est réduite à une erreur, donc on assimile en fait le risque à l'erreur, donc le risque va pouvoir être calculé et réduit par le calcul, donc éliminé. Donc pour éliminer le maximum de risque, il faut réduire le plus possible l'erreur et donc améliorer le plus possible l'information. Donc on a là derrière une idéologie de la transparence qui fait croire qu'une fois qu'on aura une information maximale sur le plus grand nombre d'éléments entrant dans la mesure du risque, à ce moment-là, on aura pu éviter de prendre trop
c'est
de risques.
Ce que vous appelez la confusion de Quetelet.
Voilà, c'est ça, exactement. Et ça, c'est typiquement ce qui caractérise l'approche du risque anglo-saxonne, dans lequel on a une culture particulière de penser le risque réduit à une erreur de calcul. D'où toutes les techniques de calcul qui sont mises en place par la suite, à base de probabilité, croyant ou considérant par là qu'on pourrait réduire l'incertain par ce calcul. En fait, il y a eu une réduction de l'incertain par le calcul qui a laissé croire que, du coup, les risques pourraient être du même coup éliminés.
Et alors, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que cette nouvelle approche fondamentale, je dirais, que vous avancez, et d'ailleurs depuis quelques années, est-ce que actuellement les systèmes financiers ont progressé dans ce sens, ou y a-t-il encore une grande résistance, notamment du côté anglo-saxon?
Alors moi, il me semble que du côté des régulateurs, on reste toujours dans l'idée que le risque peut être réduit par le calcul, et que par conséquent, la conception de l'incertitude qui prévaudrait dans l'esprit des régulateurs, je ne sais pas ce qu'ils ont en tête réellement, mais on peut le supposer, resterait marqué par la confusion quetelésienne entre incertitude et erreur. D'où, je pense, l'inflation de documents d'information demandés pour toutes les activités financières.
Et est-ce que le fait, pour parler des banques, que les régulateurs ont pensé de plus en plus fortement à augmenter les fonds propres, c'est-à-dire en fait d'augmenter dans le doute le matelas de sécurité, n'est pas un aveu d'impuissance?
Alors ça, c'est la question, effectivement, de quelle sorte de mécanisme prudentiel doit-on s'équiper pour éviter, au fond, la ruine des banques ou des assurances? Alors, c'est une question qui est compliquée parce qu'elle met en jeu, là aussi, une conception du risque et donc de l'incertitude. Donc, ce qu'on peut montrer, c'est que dans le cas où on confond incertitude et erreur, à ce moment-là, on va de nouveau tomber sur des mécanismes de calcul de fonds propres qui vont être très simplistes ou simplifiées et qui ne vont pas permettre d'avoir une vraie protection contre les risques. On pourrait parler aussi des stress tests, dont on a beaucoup parlé récemment dans la presse, qui sont, rappelons-le, des chocs exogènes sur un état donné, une situation financière. Un peu comme dans un port, on imaginerait une vague centennale qui vient heurter la digue de protection. Alors évidemment, mieux vaut que la digue soit construite pour une vague centennale que pour une vague trentennale ou décennale, surtout si pendant les 5 ou 6 années où le maire exerce sa fonction de maire, la vague centennale se produit. Mais ce qu'on ne voit pas dans cette approche, c'est que d'une part, la finance économie, ce n'est pas comme les marées. Autrement dit, on peut ne pas rester passif devant l'arrivée des vagues et attendre passivement le choc. On peut gérer de manière dynamique les situations pour pouvoir s'en protéger lorsqu'elles surviennent. D'autre part, ce qu'on voit non plus, c'est que plus on va chercher à se protéger en termes de fonds propres, plus dans l'optique d'un stress test classique à base statique, on va augmenter nécessairement le montant de fonds propres, donc le coût correspondant pour l'activité bancaire et financière. L'exemple typique, c'est solvabilité 2, les assureurs. En augmentant les besoins en fonds propres des assureurs, on les prive de la possibilité de pouvoir s'investir sur des actions à long terme. Et donc, paradoxalement, cette approche par les stress tests peut conduire à raccourcir l'horizon et à donner donc de plus en plus de poids au court terme par rapport au long terme. En fait, aujourd'hui, on a un vrai problème d'investissement à long terme. Et je pense que ceci est dû à une vision, encore une fois, statique de l'approche des risques.
Ce qui est à mettre en lien, certainement, et peut-être en perspective, avec la situation des marchés actions particulièrement tourmentée, puisque les assureurs sont par définition des intervenants de plus en plus, enfin, extrêmement significatifs sur les marchés, et que, compte tenu des éléments, comme vous dites, qui ont un effet pathogène sur le système financier, on peut dire que ça va à contresens d'une réévaluation de la bourse que beaucoup de porteurs appellent de leur vœu.
Oui, là, on peut dire effectivement, là je pense qu'il y a plus précis à solvabilité 2, solvency 2.
Ouais, c'est ça.
Cette réglementation, clairement, n'a pas pris en compte ce problème d'incertitude et reste encore dans un cadre conceptuel qui est celui du risque au sens classique.
D'accord, au sens classique du terme. Donc une vision, hélas, à court terme. Alors, peut-être pour une partie de nos auditeurs qui sont plus spécialisés, une question, on va dire là, plus pointue, plus technique, sur la value at risk, la fameuse VAR. Alors, comme indicateur pour la mesure des besoins fonds propres, de nombreuses critiques se sont élevées sur la VAR. Alors, vous de votre côté, d'abord, qu'est-ce que c'est que la VAR? Et ensuite, la VAR plus loin, L apostrophe, etc., ne pas confondre, VAR. Pensez-vous donc que ces critiques sont justifiées? D'abord, rappelez-nous brièvement qu'est-ce que la VAR.
En fait, la value at risk ou la VAR, on dirait en français, c'est un besoin en fonds propres. On dit quel doit être le matelas ou le coussin ou la réserve de fonds qu'il faut avoir pour pouvoir se protéger en cas d'une perte ou d'une secousse importante. En fait, c'est un peu une sorte de montant naturel de protection qu'il faut avoir quand on prend des positions risquées. On pourrait dire que c'est une sorte de principe d'action raisonnable. On veut prendre des positions, il faut avoir un montant en fonds propres, appelé value at risk. Alors le mot at risk, là aussi, c'est ambigu. En anglais, at risk, ça veut dire en danger. Donc c'est littéralement une valeur, un capital en danger. Donc, sauf qu'en anglais, le mot risque veut dire aussi probabilisable, d'où l'ambiguïté sur le fait que risque probabilisé, ce n'est pas risque danger. Donc il y a après une traduction sur le mot value at risk. Bon, donc je pense que ce qui est important, c'est de voir que dans la VAR, il y a deux choses. La VAR, c'est un peu comme un verre. Là, je vois devant moi le verre d'eau qui est ici.
D'eau, on précise.
Voilà, mais justement, dans un verre de forme cylindrique, on peut mettre de l'eau ou on peut mettre du whisky. Alors évidemment, là aujourd'hui, ce n'est pas du whisky, surtout...
Hélas.
Mais on voit bien que selon le contenu qu'on met dans le verre, ce sera très différent et que l'effet sur le corps ne sera pas le même. Donc la VAR, c'est un peu ça. La VAR, c'est un peu comme un verre et ça dépend, tout dépend de ce qu'on met dedans. Donc il faut distinguer deux choses pour la VAR. On dirait la VAR comme métrique, c'est-à-dire comme principe de calcul de besoins en fonds propres. Et la VAR comme mesure, ça veut dire le calcul effectif de ces besoins par le liquide ou le contenu qu'on met dans l'indicateur. Et je pense aujourd'hui, beaucoup de débats confondent les deux, métrique et mesure, parce qu'on est pour ou contre, ça s'entend dans la presse, la VAR. On dit oui, la VAR est pas si, elle doit être différente, elle est trop simple, pas assez compliquée, bref. Mais en fait, on ne sépare pas dans la VAR ce qui relève de la mesure, donc du modèle utilisé, du calcul, et de la métrique, autrement dit de l'indicateur proprement mis en place pour les décisions d'agir ou de ne pas agir. Et c'est là que dans l'ouvrage collectif, il y a un chapitre intéressant de Pierre-Charles Pradier, qui est à Paris 1, qui montre les origines de la VAR à partir d'une histoire de sa constitution, faisant apparaître que depuis Condorcet, on trouve cette idée d'un principe de probabilité raisonnable pour entreprendre, ce qu'on appelait autrefois la notion avec Buffon de servitude morale, morale au sens théorie de l'action. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de principe de probabilité raisonnable pour entreprendre, donc le principe en fait de certitude morale, le fait qu'on peut se dire qu'on ne va pas être ruiné si on s'investit, ce principe-là, donc encore une fois, qui remonte à Buffon et que dont parle Condorcet, est légitime. Donc l'avare comme métrique, au fond, n'est pas illégitime. En revanche, ce qui paraît très clair, c'est le chapitre d'Olivier Le Courtois aussi dans ce livre, c'est que si l'on met dans l'avare de l'eau de whisky, mais en tout cas pas le bon liquide, alors là, on aura des problèmes sérieux sur le calcul des fonds propres. Et c'est ça qui me paraît intéressant dans ce débat, de souligner, c'est de bien distinguer ce qui n'est pas fait aujourd'hui, la métrique, en fait, de la mesure.
Donc, on voit que vous faites un certain nombre de développements qui permettent de définir quelle est la logique à laquelle obéissent les normes financières actuelles. Et, bien entendu, dans une partie très large, avec vos co-auteurs, vous essayez d'ouvrir des voies nouvelles, des possibilités de reconstruire les normes financières actuelles, les reconstruire. Alors, quelles sont les principales voies de reconstruction et les recommandations que vous donnez, en tout cas au moins dans les grandes lignes ? Parce qu'on a peut-être passé un peu rapidement, mais il faut laisser aussi nos auditeurs découvrir la richesse de cet ouvrage, qui est d'ailleurs extrêmement bien écrit et surtout accessible, on va dire, par un public plus large que les spécialistes, on va dire, de ce domaine. Parce que, en définitive, le mythe du marché autorégulateur, aussi, vous le balayez un petit peu d'un revers de main.
Voilà, ce qu'on a voulu essayer de faire apparaître, c'était que, pour construire un système de normes, il fallait, avant en fait, de commencer, avant toute chose, penser de manière adéquate, encore une fois, ce qu'on a dit depuis le début, l'incertitude. C'est-à-dire se demander comment est-ce que telle conception de l'incertain allait se traduire dans tel exemple de normes, ce calcul, par exemple, de calcul de valeur, faut-il inclure ou non dans les cash flows, les plus-values potentielles, etc. Donc après, il y a tout un ensemble
de techniques
être issues de la manière de penser l'incertitude. Et donc effectivement, là-dedans, ce qui apparaît très vite, c'est que pour que les acteurs de la finance soient d'accord, se mettent d'accord sur des principes, on dit dans le jargon pour que les croyances convergent, il y a un côté un peu jargonneux, il faut que des autorités valident ou légitiment en fait, ces principes sur lesquels s'entendre. D'où l'importance de ce qu'on appelle les autorités épistémiques, c'est-à-dire en fait, des instances interétatiques qui valident les principes de construction des normes. Et c'est là qu'un chapitre important, qui est celui de Grégory Vanel, qui se lidère comme un roman, montre comment, en l'espace de 15 ans, le cadre épistémique dans lequel se construisent les normes a été construit par les acteurs américains. C'est-à-dire que, finalement, les pratiques financières anglo-saxonnes ont été déterminantes dans la construction des normes financières dont on a vu l'effet catastrophique au moment de la crise récente.
Mais est-ce que les Américains ne reprennent pas la main ?
Je pense qu'aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est encore une fois cette question de cadre conceptuel. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un cadre conceptuel de remplacement ? La réponse est pas sûre. Et c'est aussi pour ça qu'on a cherché à proposer, avec cet ouvrage collectif, une piste de réflexion, en ne donnant pas toutes les solutions. Ça aurait évidemment été impossible à l'échelle du groupe que nous formions, on était juste 7 ou 8, mais montrer déjà qu'il était possible d'entrer dans une voie différente pour le cadre conceptuel à partir d'une façon de comprendre comment est-ce que des normes sont reliées, en fait, au principe d'incertitude. Et je pense que ce qui n'est pas aujourd'hui vu dans le débat actuel, c'est le rapport qu'il y a entre la construction des normes financières et puis une hypothèse sur l'incertitude. On parle beaucoup des enjeux politiques, économiques, financiers, sociaux. Et de ce point de vue-là, beaucoup de travaux sont faits. Mais à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de travaux qui mettent en évidence la relation entre un type de normes et puis une hypothèse sur le hasard. Alors ça paraît très loin, ça paraît bizarre. Et on s'est demandé, est-ce que justement, il n'y a pas une relation à creuser ? Et on pourrait presque résumer le livre en disant que l'objectif de l'ouvrage, c'est de faire apparaître justement cette relation qu'il y a entre un cadre de pensée implicite sur le hasard, l'incertitude, et puis une construction donnée de ce système de normes. Et montrer comment se fait le passage, en fait, d'une idée sur le hasard à un texte réglementaire, au fond. Comment est-ce que les normes prudentielles, comptables et de gouvernance reflètent des conceptions du hasard.
Et c'est ces passerelles que vous êtes efforcé de commencer à lancer entre ces deux mondes qui, on va dire, s'ignoraient un petit peu.
Voilà.
Mais en une minute avant de vous laisser, parce que vous terminez sur un domaine qu'on est un peu surpris de trouver là, mais qui certainement cache une réflexion assez profonde, vous faites un lien avec cette incertitude et la rémunération des dirigeants. Et alors, c'est quoi votre pensée ? Voilà ce que vous dites. Ce sont des constats qui motivent cette recommandation. Vous parlez de la diligence, dont le but est de laisser aux dirigeants des marges de manœuvre qui seront à utiliser selon le modèle propre de l'entreprise et de sa situation. L'enjeu d'une telle responsabilité justifie que sa rémunération soit attachée à cette mission. Ça veut dire que l'incertitude a aussi un prix, y compris pour les dirigeants.
En deux mots, ça veut dire que les rémunérations des stock options, les bonus, aujourd'hui sont très liées au modèle au pluriel qui sont issus de la technique de Black-Scholes-Merton, qui est une technique qui ignore à la fois le déroulement du temps, la temporalité, et puis la prise en compte de risques qui sont, on va dire, nombroniens au sens du virus B. Et quand on est dans ce cadre conceptuel précis, mathématique précis, alors on montre que, de fait, le temps ne compte plus, le risque non plus, et donc le dirigeant est rémunéré parfois de manière bizarre parce que justement, on n'a pas pris en compte ce qui se passait réellement.
D'accord. Mais écoutez, là, vous nous tendez une perche parce que cette question des bonus nous donnera certainement le plaisir de vous inviter prochainement, et notamment avec un grand spécialiste de ce domaine qui est Vivien Lévy-Garbois, que vous connaissez bien, et par ailleurs dans le cercle Turgot, donc vous nous tendez une perche. Alors, je crois qu'on va conclure, je pense que nos auditeurs ont compris la richesse de cet ouvrage qui s'adresse certes aux spécialistes, mais aussi à un public plus large qui peut s'interroger sur cette anomalie du cadre conceptuel dans la maîtrise des risques à révéler la crise financière et qui s'interroge sur les critères qui permettraient de construire un nouveau champ susceptible d'organiser les activités financières sûres et bénéfiques pour l'ensemble de l'économie. Nos auditeurs ne feront plus l'erreur de confondre justement l'erreur et l'incertitude, mais nous restons dans l'incertitude sur la capacité des régulateurs à s'en convaincre. Espérons donc néanmoins que les croyances convergent rapidement. Monsieur le professeur, merci, c'était encore un grand plaisir.
Également partagé, merci Jean-Louis.
Merci.